Bonjour, bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. Ce sont les échos de Grand Saint-Barthélemy, de retour comme tous les jeudis, dernier jeudi du mois. Donc, Radio Galère, bien sûr, sur la fréquence 88.4 en modulation de fréquence, ainsi que sur le canal 8C en DAB+, sans omettre notre fenêtre sur le tout monde qui est www.radiogalère.org et de nos podcasts sur lesquels vous pourrez nous suivre. Comme vous le savez, l'émission des échos se déroule en direct des locaux du comité Mamega qui est implanté dans le Grand Saint-Barthélemy dans le 14e arrondissement de Marseille. Le choix éditorialiste que nous faisons est de ne pas nous attarder sur les drames qui se déroulent presque quotidiennement dans ces grands ensembles. Les médias autres s'en chargent, mais oublient généralement les aspects positifs existants dans nos quartiers populaires, solidarité, noyau associatif dense, en dépit de la crainte d'être victime, devenir une victime collatérale, victime d'une balle perdue. La population n'est pas une population difficile. C'est une population en difficulté qui vit dans des conditions de vie qui ne devraient pas exister. Il n'en demeure pas moins vrai que nous manifestons et apportons tout notre soutien, toute notre solidarité aux familles et surtout aux mères de famille qui ont perdu l'un des leurs, une pensée pour nous plus particulière concernant l'arbitre d'Equil. Espérons que l'émission de ce jour apportera une bouffée d'oxygène permettant aux habitants de découvrir des champs du possible, ainsi que les jeunes, bien sûr, à travers l'emploi ou la formation. Avec nos invités, nous allons tenter d'en déterminer, d'en dresser un tableau. Alors, je vous propose de faire une première pause musicale sur 88.4 avec Bernard Lavillier dans un morceau s'intitulant « Main d'or ». Merci, Cédé.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Merci Sidi. Après cette respiration musicale, nous reprenons avec les échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4 de la bande FM. Vous pouvez nous appeler sur le 07 49 53 26 38. L'émission de ce jour s'intitule « L'emploi au sein d'un QPV, quartier prioritaire de la ville, le Grand Saint-Barthélemy, engagement institutionnel et engagement d'acteurs de terrain ». Pour ce faire, nous avons de nombreux invités qui vont se présenter, dont un conseiller du Pôle emploi du Carré Saint-Gabriel, qui a reçu l'aval de sa directrice, que nous remercions aussi, parce que sinon cela n'aurait pas pu se faire. Nous avons parmi les invités Virginie Armenossi, du MOV. Nous avons Jean-Pierre Simon, du Centre social Agora. Christelle Jourdan. Flamand Iris, pardon, excuse-moi, c'est carrément qui me perturbe. Bon, effectivement, excuse-moi Jean-Pierre, tu es bien du Centre social Flamand Iris. Et nous avons Christelle Jourdan du GEC Paysage, puisque nous en parlerons tout à l'heure. Et nous avons les représentants aussi de JB Fouc. Ils vont se présenter dès à présent. Alors, prends le micro.
Alors, moi, je suis Cicéron Lucas, référent éducatif pour le DROP,
Donc DROP, c'est dispositif de remobilisation et d'orientation professionnelle. Voilà.
Et Elisa Guillouard, la collègue de Lucas, référente éducative sur l'antenne du 14e.
Ce qui nous fait plaisir, c'est de recevoir aussi quatre jeunes qui accompagnent, aussi qui sont dans ce dispositif du DROP dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, en entrée, nous avons bien sûr Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, tu es un peu à l'initiative aussi de ce projet d'émission, dans la mesure où toutes ces personnes ont été rencontrées par Farid au moment où il y a eu le tremplin vers l'emploi. Tremplin vers l'emploi qui est une initiative qui existe depuis quelques lustres maintenant, pourrions-nous dire. Tu es un peu la mémoire de ce forum.
Voilà, alors si vous voulez, le tremplin vers l'emploi, donc au début, c'est en 2008 que j'ai fait la première édition. Et ça ne s'appelait pas encore tremplin, c'était une journée d'orientation et d'information pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et par la suite, je veux dire, au fil des ans, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les jeunes qui venaient, mais il y avait des adultes aussi. Alors, si vous voulez, quand j'ai mis en place cette journée en 2008, c'était suite à un constat que j'avais fait sur les cités Flamand-Iris, où il y avait de la discrimination par rapport aux faciès, par rapport aux noms et tout, mais surtout par rapport aux lieux d'habitation. Et donc en réfléchissant aussi avec les partenaires et les collègues, on avait mis en place cette journée, et c'était de faire venir, le but, c'était de faire venir les entreprises sur la cité elle-même, et rencontrer les habitants et voir un peu dans quelles difficultés les habitants se trouvaient, et pour trouver du travail un peu avec tout ce qu'il y a dans les cités, quoi, les sécurités et
oui.
Tout.
Et à l'époque, il me semble qu'il y avait aussi différents partenaires associatifs, et cela s'est déroulé au parc obscur, Fonte Obscure, non ?
Non.
Non, ce n'est pas bon, il me semblait.
Le tremplin ?
Oui, quelques initiatives, donc ils n'ont pas eu... Ah bon, peut-être.
Alors, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, mais moi je sais que nous, sur le centre social, on était les premiers à lancer cette manifestation. Et ça se passait sur la cité des Flamands, sur le centre social.
C'est une initiative qui ne s'adresse pas que strictement aux habitants du Grand Saint-Barthélemy, qui est ouvert aussi.
Alors, au départ, en 2008, c'était sur, on va dire, sur les cités Flamand-Iris. Et ensuite, en travaillant en partenariat avec les collègues, et les centres sociaux du quartier et tout ça, on l'a élargi justement au Grand Saint-Barthélemy.
Et le bilan que tu peux en tirer aussi de cette année, cette initiative ?
Alors, si vous voulez, là, si tu veux, pardon.
Oui.
Donc là, ça fait cette année, nous avons fait la 15e édition du tremplin. Donc on a été obligé d'arrêter pendant les 2 ans de Covid.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc on a repris. Bon, c'est une action qui marche très bien. J'avais un peu la crainte cette année de refaire un peu le forum et de voir la mobilisation des partenaires, du public, après le Covid, s'ils allaient venir. Et tout compte fait, en travaillant en partenariat avec Pôle emploi, Virginie Dumov et d'autres partenaires, bon, on a réussi encore une belle journée, quoi. Une belle journée d'emploi où on a eu à peu près une centaine de personnes.
Et rappelons ta fonction au sein du centre social aussi.
Alors moi je suis coordinateur jeune, je m'occupe des jeunes sur le loisir entre les 12 et 17 ans et de 16 à 25 et plus adultes sur tout ce qui est formation, emploi et insertion.
D'accord, et le centre social accueille aussi, oui pardon.
Une question,
oui.
Qu'est-ce qui vient dans ce genre de manifestation pour seulement le public ou est-ce qu'il y a des boîtes privées qui viennent ?
Alors c'est vrai que la difficulté c'est de faire venir les entreprises. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent sur le forum, ils cherchent du boulot de suite. Voilà. Après, sinon, on a comme justement la collègue Christelle du GEC, voilà, qui a participé aussi avec les GEC Paysage, Propreté et le GEC
Paysage.
Voilà. Et le chèque BTP, voilà. Et après, il y a pas mal d'autres entreprises, on va dire, d'insertion et, voilà, qui participent, dont Pôle emploi. Et...
Oui. Peux-tu te présenter d'abord pour que l'on puisse savoir, Christelle
et Jamel Guermoudi, conseiller au Pôle emploi. On a fait le choix avec Jean-Pierre et le centre social de mobiliser à la fois le public du territoire et les entreprises du territoire. On a eu deux grosses entreprises du territoire Carter Cash, qui se trouve dans le 14e. Et la plateforme du bâtiment qui se trouve dans le 14e, entre autres avec plusieurs autres entreprises.
Merci pour cette précision. Nous allons poursuivre avec Virginie. Virginie, as-tu participé à ce forum ? D'une part, et d'autre part, il y a eu une autre initiative qui a été, comme d'autres, qui ont été reportées, compte tenu du contexte et des bon, nous n'allons pas le rappeler, mais néanmoins, cela s'est déroulé hier aussi.
Tout à fait. Donc, moi, j'ai participé aussi au tremplin de Jean-Pierre. Comme depuis que je suis arrivé, je suis animatrice au centre social à Nantes depuis 5 ans. On a collaboré, je collabore avec lui, c'est lui qui l'a mis en place. Et effectivement, donc j'ai pris un peu modèle sur Jean-Pierre et je me suis dit qu'il fallait aussi faire un peu comme une forme de tremplin. Donc j'ai appelé ça le job d'été, une job d'été, qui est en direction d'un public bon, à la base plus pour les 17-25 ans, mais qui était ouvert aux 17-64 ans. Et l'idée, c'était de faire venir des entreprises, surtout autour de job d'été, on va dire le Grand Bleu par exemple, tout ce qui est sur viande baignade. Il y avait aussi la mission OCA qui proposait pas mal d'offres sur le commerce, la grande distribution. On avait aussi Nécessité qui proposait aussi des offres.
Et donc, en fait, ça a très bien marché. On avait dû le reporter effectivement le 3 mai, suite aux événements qu'il y avait eu sur le quartier, qu'on ne va pas rappeler. Et du coup, c'est vrai qu'en reportant 3 semaines après, je me suis aussi posé la question de est-ce que tout le monde pourrait être mobilisé, les entreprises, j'ai pas cité tout le monde, mais tous les partenaires et le public aussi. Voilà, puis finalement, hier, pareil, Jean-Pierre est venu aussi, il a collaboré avec moi. Et l'idée, c'est d'arriver aussi à faire des job dating ou des tremplins vers l'emploi, un peu dans chaque quartier, que ce soit au Flamand-Héris, à la Busserine, pour que le public aussi puisse aller d'un quartier à l'autre, parce que malheureusement, pas tout le monde le fait, pas tout le monde sort de son quartier, même si c'est à côté. Et hier, on a eu une centaine de personnes qui venaient à peu près de tous les arrondissements de Marseille, mais on a remarqué quand même que le public de notre territoire n'était pas assez représenté encore. Donc je ne sais pas d'où vient cette problématique, mais c'est vrai que c'était... C'est un peu dommage, mais voilà. Sinon, la communication a plutôt bien marché. Et voilà, on a prié pour pas qu'il pleuve, il n'a pas plu. C'était une très belle journée. Vraiment, les partenaires ont joué le jeu. Tout le monde a ramené du public. Tout le monde s'est investi sur cette journée-là. Tout le monde a été assez content. Il y avait aussi le bus de la jeunesse avec la ville de Marseille. Il y avait pas mal, vraiment beaucoup de partenaires. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun incident. Et on a montré qu'on était là malgré tout ce qui se passe sur le quartier, comme on disait au début de l'émission.
C'est très bien. Mais que signifie le MOV ?
Alors le MOV,
c'est un dispositif État. Quel est le dispositif en question ?
C'est un dispositif financé par la politique de la ville et la préfecture. Et du coup, avant, c'était le dispositif qui s'intitulait le PAPEJ, qui était en direction des 16-25 ans, qui a évolué en direction maintenant des 16-64 ans. Et ça signifie mobilisation, orientation vers l'emploi. Et donc, je travaille beaucoup sur les problématiques, on va dire, de mobilité, de garde d'enfants, de logement. On essaie de faire un travail avant tout d'aide administrative, ce qui n'est pas dans mon travail de base. Donc on va orienter vers des assistantes sociales ou autres. Et après, le but, c'est d'orienter vers le SPE, que ce soit la mission locale, où il y a des permanences le mardi matin au centre social de l'Agora, et aussi en direction du Pôle emploi avec Jamel ou mon autre collègue Ludivine, et aussi des autres associations. Comme le DROP, on essaye, mais ce n'est pas forcément évident de travailler en collaboration tout le temps avec d'autres dispositifs. On essaye d'orienter au maximum vers des dispositifs qui existent sur l'emploi et l'insertion.
Concrètement, comment ça se passe ? Donc, des gens viennent, ils sont en recherche d'emploi, ils discutent directement avec des employeurs, ils font... Comment ça se passe ?
Alors concrètement, sur mon poste au centre social, vous voulez dire, ou par rapport au... Alors, sur le forum, alors que ce soit pour le tremplin, je parle aussi pour Jean-Pierre, c'est vrai qu'ils viennent avec un CV en général. Et en fonction de ce qu'ils veulent pour, comme travail, ils vont se diriger vers les entreprises qui les intéressent. Alors après, certains ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc par exemple, pour les jobs d'été, ils viennent, ils regardent un peu ce qu'il y a comme proposition. Et nous, sur le job dating en lui-même, il y avait des entreprises, toutes les entreprises avaient des offres d'emploi concrètes. Et donc, ils prennent les CV, à l'arrivée, ils s'inscrivent. Après, ils tournent, ils donnent des CV et les entreprises les rappellent. Donc là, sur une centaine de personnes, on pourra faire le bilan, je pense, d'ici un mois et voir combien de jeunes ou de moins jeunes ont été recrutés pour l'été. et on pourra faire un petit bilan et voir si c'est un tiers, deux tiers, on verra. Mais c'est vrai qu'il y avait, je dirais, bien une trentaine, quarantaine d'offres. Alors forcément, ça va pas, on va dire, pas tout le monde va trouver du travail, mais l'idée, c'est qu'après, tout le monde garde le CV et rappelle dès qu'ils ont des missions ou des offres d'emploi qui peuvent correspondre au public qui est venu hier, par exemple.
Merci, nous allons poursuivre. Bon, bonjour Christelle. Christelle a déjà présenté tant soit peu ce que signifie le GEC, GEC Paysage. Alors, quelle est la signification? C'est un sigle.
C'est un sigle, c'est GEC, donc G-E-I-Q, parce qu'on met souvent un C à la fin. Du coup, ça veut dire groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Alors, pour ma part, c'est dans les métiers du paysage, mais sur les Bouches-du-Rhône, il existe 16 GEC avec différents secteurs d'activité qui sont représentés. On en a cité quelques-uns tout à l'heure sur le tremplin de l'emploi, mais je vous invite à aller sur le site qui s'appelle « On démarre demain ». Vous le tapez sur Google, c'est le premier site qui apparaît et il y a tous les GEC des Bouches-du-Rhône et de la région PACA d'ailleurs qui sont représentés.
J'aime bien, recrutons ensemble. Alors, détaillons un peu le recrutement aussi.
Alors, recrutons ensemble, c'est-à-dire on travaille avec des entreprises du secteur privé uniquement. Donc on représente tous les GEC des entreprises adhérentes. Pour le GEC Paysage, moi j'ai 25 entreprises adhérentes sur les Bouches-du-Rhône. Et donc les autres GEC, ça peut aller de 10, 15, 20, 30 ou 40 entreprises du secteur privé. On est là pour servir un petit peu de tremplin à la profession. On accompagne en fait sur des parcours socio-professionnels des jeunes et des adultes, puisqu'on recrute du 18-60 ans et plus en fonction de la forme physique par rapport à nos métiers. Et on les accompagne sur des contrats pro. Donc certains GEC ont de la formation en centre de formation, en alternance, et d'autres GEC ont de la formation directement sur le terrain. C'est de la formation en tutorat, et ça sert beaucoup aux personnes qui ne veulent pas retourner à l'école ou qui sont en rupture scolaire, et ça nous permet de leur apprendre un petit peu le métier sur le terrain.
Donc quels sont les relais que vous avez dans le domaine des paysages, justement paysagistes? Quels sont les liens? Vous travaillez par exemple avec le lycée paysagiste qui se trouve du côté de
Alors de nous Pointe on, Rouge, travaille, on travaille avec le CFPPA de Marseille-Vert, tout à fait, oui. Le CFPPA de Valabre aussi qui est sur Gardanne. On travaille avec la Bastide des Jourdans qui est du côté de Pertuis. On travaille aussi avec d'autres centres de formation comme la CPM ou l'AFPA. On essaie de développer des formations, d'accompagner sur la création aussi de titres pro. Moi, je suis en train de créer un titre pro et la gage. Donc, je suis sur le projet depuis un petit moment et je devrais arriver à le finaliser logiquement en fin d'année. Donc, on essaie d'accompagner aussi la profession là-dessus. On travaille beaucoup avec l'Union patronale des entreprises du paysage, c'est l'UNEP. Et du coup, on répond directement à la demande des entreprises du secteur privé.
Pour permettre à certains jeunes de savoir un peu qu'est-ce que c'est paysage et quels sont les métiers qui sont proposés, j'entends et la gage, mais il y a quoi d'autre aussi?
Alors, les métiers qui sont proposés, c'est ouvrier paysagiste. Donc, ça va être soit de la création, soit de l'entretien des espaces verts, des parcs et jardins, soit les deux. Ça peut être ouvrier forestier. Donc, élagueur, comme vous avez cité, c'est des personnes qui sont dans les arbres avec la tronçonneuse et qui coupent les branches. On a aussi des ouvriers de création urbaine. C'est des personnes qui vont créer des terrains de sport, qui vont créer des ronds-points, des gros parcs où il va y avoir du travaux public, du VRD, donc voirie et réseaux divers, et de la canalisation. Donc on suit l'évolution du métier en fonction de l'avancement.
Merci pour tout. Tu avais peut-être une question, Saïd, à poser?
Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur?
Oui, alors on n'est pas classé en métier en tension parce que les entreprises d'espace vert sont un peu à l'ancienne, un peu comme les agriculteurs, et on passait encore il y a 2 ans sur du bouche à oreille. Donc on va certainement passer en métier en tension, donc il y a du travail dans ce secteur d'activité. Après, pour le GEC Paysage, il faut juste avoir soit une appétence, soit une expérience déclarée ou pas. Donc si vous avez grandi à la campagne avec la grand-mère, vous avez fait du jardinage, vous pouvez postuler chez nous. Voilà, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Nous, on va réorienter les personnes s'ils ne sont pas faits pour le GEC. On a un partenariat avec tous les chantiers d'insertion, avec tous les centres de formation. Donc on est en capacité de les réorienter s'il faut.
Moi, j'avais une question à poser. Vous avez spécifié qu'effectivement, vous travaillez, si j'ai bien saisi, exclusivement avec des partenaires privés. Mais il y a un acteur dans ce territoire, mais pas que dans le Grand Saint-Barthélemy, mais autour, que sont les lycées professionnels. Et je pense notamment au lycée Diderot, qui a un secteur bâtiment extrêmement important. Est-ce que vous l'envisagez à moyen terme peut-être de travailler avec ce type d'acteur, ou ce n'est pas nécessaire puisque d'autres le font ?
Alors nous, on est adhérents Cap au Nord Entreprendre. Donc ça fait partie des partenaires qu'on côtoie au cours des réunions et des commissions. Donc on essaye de trouver aussi des liens et des passerelles avec ces partenaires. Nous, ce qui serait intéressant aussi et qui n'existe pas aujourd'hui ou très peu, c'est d'avoir des CVTech, des personnes qui finissent les formations. Parce que quand on a des personnes, enfin des jeunes qui finissent une formation et qui sont un petit peu sur le carreau, on n'a pas accès à ce CV. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les centres de formation aujourd'hui ou les lycées ne savent pas encore comment s'organiser pour diffuser ces CV, soit auprès de Pôle emploi, soit auprès des entreprises qui recrutent. Donc il faudrait vraiment trouver une vraie passerelle là-dessus. C'est ça, il manque un maillon.
Eh bien, merci. Nous allons poursuivre, mais par Roger Béfouque. J.B. Fouque, les collègues ici présentement, nous allons voir un peu, parce que cela me semble être important, parce que J.B. Fouque, pour beaucoup, dans l'esprit de tout un chacun, cela représente les MECS, les maisons d'enfants à caractère social, mais là, actuellement, me semble-t-il que vous avez aussi développé d'autres axes aussi, à côté, ou bien pour aider, accompagner tous ces jeunes-là aussi. Bonjour, rebonjour.
Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, moi, bah, pour me représenter, voilà, je suis Lucas, référent éducatif au sein du DROP. Alors le DROP, du coup, c'est un sigle également. Donc c'est dispositif de remobilisation et d'orientation professionnelle. Donc notre but est d'accompagner en fait les jeunes déscolarisés, âgés entre 16 et 25 ans, les accompagner vers l'emploi. Donc pour ce faire, nous avons des ateliers professionnels qui sont mis en place sur le dispositif. Donc on va avoir un atelier espace vert, un atelier bâtiment et un atelier cuisine. Et les jeunes vont avoir plusieurs phases d'accompagnement. Donc ils vont avoir une première phase où ils vont venir sur le dispositif pour se remobiliser. C'est souvent des jeunes qui sont déscolarisés, donc qui n'ont pas forcément un rythme professionnel. Donc on va faire en sorte de les remobiliser, faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils arrivent à respecter un rythme, respecter des règles, respecter le patron, respecter un cadre de travail. Une fois qu'ils sont remobilisés, qu'ils respectent les horaires, parce que du coup on les accueille à la journée, toute la semaine. En fait, on est ouvert de 9h à 16h, 3 jours dans la semaine, et les 2 autres jours hors week-end, du coup, on est ouvert de 9h à midi. Et donc pendant la première phase, il va y avoir toute cette idée de remobilisation, faire en sorte qu'ils respectent les horaires. Une fois qu'ils sont remobilisés, on va avoir la deuxième phase où on va vraiment se concentrer sur leur projet professionnel. Donc suivant ce qu'ils veulent faire, ils vont nous dire vraiment les domaines qui les attirent. On va voir avec eux un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et en fonction, on va les accompagner pour trouver des stages auprès d'entreprises, pour qu'il y ait vraiment une immersion professionnelle, pour qu'ils puissent confirmer leur projet. Et suite à ça, suite à leur confirmation, une fois qu'ils ont validé leur projet professionnel, là, on va les accompagner vraiment pour, dans le concret, pour trouver soit un contrat d'apprentissage ou un retour à la scolarité, un contrat directement, un CDD, CDI, voilà, un type de contrat, voilà.
Une question, est-ce que le travail se fait par groupe ou c'est individuel ?
Alors, le suivi est individuel. En fait, avec ma collègue Lisa, ici présente, on est référent, donc on a vraiment ce suivi individuel. Après, les ateliers se font en groupe, mais chaque jeune va avoir vraiment un parcours individuel bien à lui, qui va être qu'on va construire avec lui. Voilà.
Oui, donc moi c'est Lisa, référente éducative aussi du DROP. Donc c'est vrai que, comme disait Lucas, on est sur un accompagnement individuel. Et essentiellement, c'est vrai qu'on accueille des jeunes, vraiment, on les accueille tels qu'ils sont quand ils arrivent. Donc c'est vrai qu'on leur dit que chaque planning est différent, parce qu'ils ont un planning à la semaine. Et c'est vrai qu'il faut pas qu'on leur demande de ne pas se comparer, de venir avec leurs propres objectifs. Et le petit plus aussi du DROP, si je peux préciser, c'est vrai que la phase de remobilisation, pour nous, c'est la plus importante. Et c'est vrai que pour des jeunes qui sont déscolarisés depuis un an, deux ans, retrouver un rythme classique, c'est compliqué dès le début. Donc c'est vrai qu'au niveau de leur présence sur le drop, on leur demande de venir... Enfin, on peut leur aménager leur planning de façon progressive. C'est-à-dire que souvent, on dit, bah, pour un jeune qui a du mal à se lever le matin, lui demander de venir à 9h dès le premier jour, on sait que ça va être très compliqué et qu'il ne va pas venir. Donc on va commencer progressivement, par exemple, sur des après-midi et monter progressivement comme ça. Et moi, je voulais juste préciser que du coup, le drop initialement a commencé dans le 10e arrondissement de Marseille, sur Saint-Tron, et qu'on a ouvert une autre antenne depuis début novembre au Canet, au 1 place des États-Unis, voilà, pour justement essayer de pouvoir accompagner ces jeunes un petit peu plus éloignés donc du 10e arrondissement. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi continuer cette passerelle entre l'antenne du 10e et du 14e pour... aussi ben, mixer un petit peu les populations de Marseille et aussi travailler la mobilité. Parce qu'on sait que, comme ça avait pu être dit, des fois c'est compliqué pour certains jeunes de sortir du 14e, 15, 16, enfin voilà, et de découvrir d'autres choses.
Pour les inscriptions, je suppose que ça se fait tout au long de l'année. Ce n'est pas comme une année scolaire où on commence en septembre.
C'est ça, exactement. On a des entrées-sorties permanentes. En tout temps, on ne ferme jamais. Peut-être aller une semaine à Noël et encore, ça reste ouvert tout le temps, même l'été. Ben pour les inscriptions, en fait, il suffit de nous contacter. Donc soit on a le standard de l'association JB Fouc, le drop au centre Fouc à, donc dans le 10e. Après, on pourra faire passer, les, si besoin, du coup, les numéros nécessaires. L'idée, c'est de nous contacter. Puis après, on prend rendez-vous avec le jeune et l'accompagnateur pour un premier rendez-vous et expliquer un petit peu comment ça se passe.
Merci pour cette présentation. Nous laisserons la parole aux jeunes, puisqu'il y a quatre jeunes qui sont là, s'ils désirent la prendre, ainsi qu'une monitrice éducatrice ici. Donc, s'ils veulent prendre la parole tout à l'heure, il n'y aura pas de problème. Nous avons laissé le meilleur aussi à Jamel Guermoudi, le conseiller emploi de Saint-Gabriel, qui a aussi un regard, pourrions-nous, beaucoup plus global sur la situation de l'emploi dans le Grand Saint-Barthélemy, plutôt du 14e arrondissement. Alors, le 14e arrondissement recouvre quel quartier déjà? Et voir un peu quel est le secteur et comment fonctionne le Pôle emploi aujourd'hui.
Ben, je me représente et je redis bonjour aux auditeurs. Jamel Guermoudi, je suis conseiller relations entreprise au Pôle emploi Carré-Gabriel, dans le 14e arrondissement. Et je suis aussi référent politique de la ville. Et c'est pour ça que je travaille avec Jean-Pierre, les centres sociaux, avec les MOV, les accompagnateurs. Comment fonctionne le Pôle emploi? Ben, le Pôle emploi, il y a un Pôle emploi dans chaque arrondissement ici à Marseille. Le Pôle emploi de Carré-Gabriel accompagne les demandeurs d'emploi, résidents sur le 14e arrondissement, un grand territoire sur Marseille. On a 12 filières, si on reprend un petit peu l'exemple du GIEC, Pôle emploi a créé 12 filières d'avenir. 12 filières d'avenir, c'est 12 secteurs en tension. L'agroalimentaire, l'industrie, le bâtiment, l'hôtellerie, café, restauration, tourisme, etc. Et nous, dans le 14e, on porte la sécurité-défense. Donc sécurité publique et défense-sécurité publique. En termes de chômage, on voit une évolution post-Covid qui diminue. J'ai pas de chiffres en tête, mais à tendance nationale, se fait remarquer aussi en local.
Oui, et il faut dire que le projet gouvernemental, c'est d'arriver au plein emploi, n'est-ce pas? Et Laura, vous avez beaucoup de boulot sur la planche, c'est ça? Pourriez-vous nous dire? Non.
Oui, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi, et pour appuyer ce point de part des aides, des mesures gouvernementales. Comme on est dans le thème aujourd'hui du QPV Il y a une mesure qui est l'emploi franc pour les entreprises. Pour toute embauche d'une personne, d'un demandeur d'emploi résident en QPV, l'entreprise a une aide à l'embauche de ce demandeur-là.
Oui. On dit beaucoup en ce moment que les entreprises recherchent beaucoup de salariés, qu'elles ont du mal à trouver. Est-ce que c'est vrai pour nos secteurs ici ?
Alors oui, j'ai parlé du taux de chômage qui diminuait et on a aussi une forte demande d'offres d'emploi. On a une enquête BMO qui apparaît chaque année et qui montre un besoin des prévisions de recrutement. D'où la création de ces 12 filières et pour arriver à recruter, on a mis en place ce qu'on appelle les détections de potentiel. Une détection de potentiel, c'est un professionnel du secteur, des 12 filières, qui vient en agence et hors agence, parce que lors du tremplin, on a fait une détection de potentiel transport logistique. Donc un professionnel qui vient rencontrer un public intéressé, ou pas curieux de par un secteur qui cherche sa voie, il va présenter les différents métiers comportementaux. Derrière, on a mis en place des exercices d'aptitude de comment, si on prend le thème du transport et de la logistique, quelles sont les tâches qu'un chauffeur effectue sur une journée. De par la présentation, les questions-réponses, de par cet exercice-là, le demandeur d'emploi, le candidat, apprécie mieux le métier ou le secteur. Derrière, il peut s'orienter, il pourra être orienté sur une formation et voire même sur des emplois de bas qualification directement accessible.
Non, moi j'avais une question à poser. Jamel, vous avez dit effectivement qu'au niveau national et au niveau local, le taux de chômage a baissé, ou relativement a baissé, parce que quand on aborde la question de l'emploi dans ce pays, et particulièrement dans ce territoire où ça a plutôt été l'inverse pendant des décennies, il me semble que l'Observatoire de la politique de la ville met toujours en avant qu'il y a deux catégories qui sont touchées par un taux de chômage relativement important, que sont les 18-25 ans et les femmes. Et il y a effectivement des dispositifs, des actions mises en place. Est-ce que est-ce que le Pôle emploi, notamment du 14e, est sensible à cette question à la fois de l'emploi des jeunes et des femmes ?
Je vous remercie pour la question. Oui, on a mis en place avec un financement FSE du Fonds social européen des accompagnements spécifiques AIJ, accompagnement intensif pour les jeunes, et comme il existe aussi à la mission locale le CEJ, le contrat d'engagement jeune, qui se trouve aussi à la mission locale et à Pôle emploi. Ce sont deux dispositifs pour les jeunes de moins de 26 ans avec un accompagnateur à l'emploi, un parcours personnalisé, une aide financière en fonction de la situation du jeune. Et donc ça, c'est tout ce qui est dispositif d'accompagnement pour le jeune. Il y a aussi un contrat, un avantage pour les entreprises qui embauchent aujourd'hui un jeune, c'est le parcours emploi compétences, un PEC, qui permet le CIE, le contrat initiative emploi aussi dans le secteur privé, qui permet d'avoir une aide financière en embauchant un jeune, en l'accompagnant dans son projet professionnel. Pour qu'ils puissent développer ses compétences. Ça, c'est la partie pour les jeunes. Pour les femmes, on a des accompagnements. On a aussi dans l'accompagnement du FSE des accompagnements intensifs où ces femmes adhèrent, sont accompagnées. On a une psychologue de l'orientation dans le 14e arrondissement qui fait des ateliers pour les femmes. Pourquoi ces ateliers pour les femmes, si je le développe un peu? Parce qu'elles ont été en premier maman, donc une longue période d'inactivité professionnelle. Elles ont été actives, mais pas professionnellement. Donc c'est enlever, elle en parlerait mieux que moi, mais pour enlever les codes, les freins à la mobilité, un petit peu se détacher du cordon familial pour aller vers les entreprises. Si vous me permettez, je vais rebondir sur ce qu'a fait mes collègues. Amener les entreprises aussi sur les territoires permet aussi une première approche. Même s'il n'y a pas d'emploi dans des job dating ou dans des forums professionnels au sein des territoires, au sein des centres sociaux, ça permet déjà une première approche, enlever une première barrière, une première rencontre, et le lendemain, enchaîner sur une candidature et sortir du quartier.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire une seconde respiration musicale et avec Quartier Nord qui fait un clin d'œil à Pôle emploi. Alors, bon, c'est comment fait rêver Pôle emploi, fait rêver Quartier Nord aussi. Allez.
Enfin, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend au revoir ! Bon, bise.
Oh les gars, oh, je le crois pas. Il y a une nana que je connais pas. Elle m'écrit, ça me ferait de porc. Tellement, elle me kiffe à mort. Elle sa lettre, elle me supplie de la rejoindre l'après-midi. Elle me dit qu'il est encore temps qu'on se rencontre vraiment. Je prends l'enveloppe tendrement. Je la regarde, je la respire, je la déchire pour découvrir son petit, tout petit nom charmant. Elle s'appelle Paul, Paul emploi. Elle écrit son beau prénom avec un O, c'est trop sympa. Paul, Paul emploi. Son caractère arial me rend, je vous l'ai dit. Dans son bureau, elle me reçoit. Pas d'encart, pas de coca. Elle me dit autoritaire.
Votre numéro d'allocataire.
Oh, moi, c'est pas Cadernine, c'est Fred comme Fred Astaire. Mais tu es trop bonne, file-moi ton phone. Elle me le donne, je le note. 39, 49. Mais c'est payant finalement. Oh les gars, oh, c'est quoi ce plan? Elle s'appelle Paul, Paul emploi. C'est un drôle de numéro, mais pourquoi pas? Paul, Paul emploi. Elle me dit de cocher là, mais moi je coche pas la première fois. Elle me dit que je manque cruellement d'expérience. Elle a tout compris de ma vie. Qu'est-ce que ça doit être au lit? Elle tape tendrement. Elle tamponne tendrement. Elle agrafe tendrement. Elle me tend tendrement. En me disant tendrement. De revenir tendrement. Dans 6 mois finalement. Eh ben elle est pas pressée. Moi ça me plaît. Elle s'appelle Paul. Paul emploi. Elle écrit son faux prénom avec un O, c'est trop sympa. Paul, Paul emploi.
elle s'appelle Pôle, Pôle emploi. C'est un drôle de numéro, mais pourquoi pas Pôle, Pôle emploi. Elle me dit de cocher là, mais moi je coche pas.
Lorsque nous parlons de respiration musicale, c'est réellement une respiration, mais comme nous avons tellement de choses à vous dire concernant l'emploi, la formation avec nos invités, nous sommes toujours sur le 88.4 de la bande FM, émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy. Alors, en début, en introduction, nous avons parlé du plein emploi de l'époque. Peut-être que concernant notre secteur, c'est à voir et c'est à réfléchir. Comment en sommes-nous arrivés un peu à cette mutation, ce changement? À un moment donné, période de plein emploi, on parlait de classes ouvrières sur les quartiers. Et là, nous parlons de plus de quartiers populaires. Comment en est-on arrivé là avec Arima pour essayer d'évoquer un peu tout ce pan de cette histoire-là qui est extrêmement importante pour nous permettre de comprendre comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui?
Oui, alors le Grand Saint-Barthélemy, je l'ai déjà dit auparavant dans d'autres émissions de Radio Galère, portées par le comité Maméga, ce territoire, avant, c'était une vaste campagne et qu'on a construit très rapidement dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70, ces fameuses tours et bars que vous avez pu observer quand vous déambulez dans notre quartier. Il a fallu d'abord loger les Marseillais, parce que le logement de l'époque n'était pas satisfaisant, mais aussi les rapatriés d'Afrique du Nord. Et puis, dans un deuxième temps, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, des familles immigrées, essentiellement des familles immigrées algériennes. Qui habite ce territoire dès qu'il est constitué par ses tours et ses bars? C'est d'abord massivement, nous dit la gamme, dans les années 70, plus de 75% issus de la classe ouvrière. Et le reste, c'est la petite classe moyenne qui était présente dans ce territoire, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Des enseignants, des petits commerçants, etc., qui étaient présents. Donc les années 60-70, c'est le plein emploi. Au niveau national, au niveau marseillais, bien sûr aussi au niveau local. Donc la classe ouvrière est présente, elle est forte, elle est massive. Elle va subir le contre-coup de ce qu'on appelle la crise pétrolière de 1973. Et dans cette crise de 73, qui va toucher l'économie française, les premiers licenciements apparaissent. On parle de chômage, ce mot apparaît. Il y a toujours eu du chômage, mais pas de façon aussi massive comme on a pu le connaître à partir de 73 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc les premiers ouvriers qui vont être touchés par la fermeture ou par la diminution des emplois, ce sont les travailleurs immigrés. C'est les derniers arrivés, ce sont des étrangers. Donc s'il y a des postes à supprimer, c'est d'abord eux et après c'est le reste des membres de la classe ouvrière. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un changement au niveau national et international, c'est-à-dire que les grands secteurs d'activité qui étaient pourvoyeuses de main-d'œuvre ouvrière, elles ferment au fur et à mesure et on va plutôt vers de l'emploi de plus en plus qualifié. Et moi, je pense que c'est là où on a raté un peu le coche avec notre jeunesse. Et je faisais tout à l'heure un aparté avec Christelle. Je pense qu'au niveau de la scolarité et de la formation, on n'a pas pris en amont ce qui se passait, cette transformation qui s'est passée dans notre pays et évidemment en ricochet avec notre territoire. Donc, la deuxième génération, je dirais, si on parle des familles immigrées, la deuxième génération, autant les parents ont connu l'emploi, bien sûr après des formes du non-emploi avec les licenciements, mais il y a toute une partie d'une jeunesse qui va ne connaître malheureusement que le chômage ou le non-emploi. Et en fait, il y a des sociologues qui travaillent là-dessus en disant qu'il y a comme un héritage Alors qu'en général, un héritage est plutôt positif. Là, c'est un héritage négatif, transgénérationnel, du non-emploi ou d'un emploi précaire ou de petits contrats aidés, etc. Je vais faire un peu vite. Donc, pour revenir à la ville de Marseille, effectivement, la ville de Marseille, puisque Jean-Marc m'a dit d'en parler un petit peu, elle va connaître elle aussi, pendant cette période de crise économique des années 70, la ville va perdre plus de 50 000 emplois, notamment liés au secteur du port, mais aussi du BTP. À un moment donné, le BTP emploie moins. Donc, voilà. Et puis, la classe ouvrière qui disparaît telle que nous la connaissions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travailleurs et des travailleuses, pour reprendre la rhétorique d'un certain parti d'extrême-gauche. Mais pour reprendre, il y a des travailleurs et des travailleuses. Après, il faut qualifier le statut de ces travailleurs et travailleuses aujourd'hui. Et notamment dans nos quartiers, pour ceux qui travaillent, c'est terrible de dire ça, pour ceux qui ont la chance de travailler, c'est souvent des emplois précaires, c'est souvent des petits CDI avec des CDI avec des rémunérations de base, etc. Et puis, on a les chiffres, j'ai parlé tout à l'heure en aparté de l'Observatoire de la politique de la ville, c'est extrêmement intéressant parce qu'il nous donne comme ça une vision actualisée de la situation de nos quartiers. C'est aussi les gens qui vivent grâce aux minima sociaux. Donc le non-emploi a été, je dirais, à la fois par la précarité, par les bénéficiaires du minima sociaux, aujourd'hui est extrêmement présent dans notre territoire. Donc effectivement, tu as raison, de quartier ouvrier avec l'emploi, avec ce qu'est la culture ouvrière. On a passé juste tout à l'heure un groupe très connu qui est issu de cette classe ouvrière qui est quartier nord, mais il y avait quand même une à la fois syndiqué, revendicatif, dans des revendications tout à fait légitimes. Donc on sent qu'il y a, et puis au fur et à mesure, elle est complètement disloquée. Et aujourd'hui, et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de demandes autour de cette table pour parler de la question de l'emploi. Parce que si l'emploi existait, je pense pas qu'on serait aussi nombreux autour de cette table. Après, je voudrais faire quand même un petit clin d'œil. Le premier employeur dans nos quartiers aujourd'hui, c'est le secteur associatif. Grâce au contrat aidé. Jamel parlait effectivement des dispositifs qui sont mis en place par l'État, notamment pour inciter à l'embauche des jeunes. Et souvent, le secteur associatif, à la fois tendu à la main à des jeunes peu ou pas diplômés, peu ou pas n'ayant peu ou peu de compétences, à travers les contrats aidés, c'était à la fois... Moi, je trouve qu'il y a une question de solidarité qu'a joué totalement le secteur associatif. En tendant la main à ces jeunes, ça a été leur premier emploi. Et après, pour certains, ils ont pu peut-être, ou ils ont pu sûrement rebondir vers un ailleurs. Et certains, carrément, se sont qualifiés, notamment dans le secteur associatif, grâce à des formations liées à ce domaine. Et ils sont embauchés après à titre permanent par le secteur associatif. Oui.
Alors Christelle, du GEC Paysage, je prends la parole, je rebondis un petit peu, parce que alors moi je suis pas d'accord complètement avec vous, puisque aujourd'hui les entreprises viennent recruter dans les quartiers nord, ils font évoluer les salaires, donc ils essayent de plus être sur des salaires vraiment trop précaires, puisqu'ils essayent de mettre des avantages en place pour qu'on soit au-dessus du SMIC et pas au SMIC. Donc, moi, je travaille avec des réseaux d'entreprises exprès pour faire évoluer ces mentalités et justement faire descendre les grands patrons et les faire réfléchir là-dessus, parce qu'on a des pépites dans les quartiers, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord, j'ai grandi au plan Dao. Mes parents étaient divorcés, ma mère était au RMI. Et aujourd'hui, je suis directrice d'une structure associative. C'est parce que je me suis battue pour m'en sortir et il faut croire en soi. Et il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses envies et de ses rêves. Il y a des structures qui existent, justement, qui sont autour de la table et qui existent pour accompagner ces jeunes.
C'était pas une attaque. Je dis qu'effectivement, quand il y avait le plein emploi dans ce pays, il n'y avait pas ce type de dispositif. Ce n'était pas nécessaire. Donc, il y avait soit l'éducation nationale qui faisait son travail plus ou moins, soit les centres de formation pour effectivement qualifier des personnes selon les postes à pourvoir. Je dis juste qu'effectivement, notre territoire, depuis les années 80, connaît quand même un chômage qui perdure, un chômage structurel, un chômage transgénérationnel. Et ça, j'entends qu'effectivement, c'est très bien si vous arrivez à faire entendre un des patrons d'augmenter le SMIC, parce que c'est très bien. Mais après, j'entends votre parcours, je pourrais aussi parler du mien, mais on n'est pas tous des Zidane, si vous me permettez cette métaphore. Pour un Zidane, il y en a combien qui sont sur la touche ? Il y en a beaucoup. Et effectivement, mais c'est important aussi de dire il y a des gens qui peuvent réussir, c'est possible, etc. Mais il y a des gens qui, malgré cela, n'y arrivent pas. Et c'est là où nous venons en accompagnement, pas en aide.
On est là pour ça.
En accompagnement. Voilà. Mais ce n'était pas une attaque. Hein.
Non, je ne l'ai pas du tout pris comme une attaque. Hein. Attention. Ouais. Je rebondis, c'est tout.
Bon, effectivement, c'est bien. Bon, je rebondis sur ce que disait Karima. Parce qu'après 1973, il y a eu beaucoup d'unités, de petites unités économiques qui travaillaient dans un environnement de port, avec d'anciens métiers que certains de mon âge et ceux qui n'ont pas 20 ans aujourd'hui ne connaissent pas, c'est-à-dire des formations de CAP telles que tourneurs, fraiseurs et autres, ce qui permettait à tous ces ouvriers du Grand Saint-Barthélemy de pouvoir avoir des emplois dans les environs du port. À l'issue de ça, qu'est-ce que cela a donné ? Ça a donné aussi une modification au niveau de la composition ethnique aussi de la population. D'une population où il y avait une mixité sociale, c'est substitué, ça a été une volonté politique pour ma part, que ce soit une concentration de personnes issues d'immigrations subsahariennes, comoriennes, maghrébines, essentiellement. C'est ce à quoi nous assistons avec ce qui va de pair, avec une stigmatisation aussi de ces quartiers, en lien avec l'emploi, la recherche d'emploi et les difficultés de trouver aussi des emplois, ce qui a été déjà dit, à savoir qu'à partir du moment où on habite un quartier, déjà il y a ce problème de dire c'est un quartier, c'est un jeune de ce quartier, sans voir un peu le nom patronymique, la consonance et autres, qui exclut aussi de fait. Je peux en parler librement, oui. Je peux en parler aussi librement parce que Saïd, comme moi, il y a eu un temps où il y a eu l'apparition des stages jeunes, les stages du Bedou. Et nous travaillons dans tous les quartiers, Plan d'eau, Solidarité, Castellane et autres, y compris Saint-Mauran. Et la difficulté, lorsqu'il y avait une recherche d'entreprise, c'est lorsque l'on avait des artisans, on nous disait ni noir ni arabe pour faire des stages d'insertion, d'entrée de jeu. Donc c'était un peu difficulté, nous étions en difficulté à dire à ces jeunes, mais il faut croire, il n'y a pas que des personnes, des entreprises, des artisans qui excluent. Et ce qui était pris en otage quelque part, c'était de dire, ce n'est pas moi, c'est le propriétaire, le futur propriétaire ou bien occupant du logement qui ne veut pas, qui refuse. Donc au niveau de l'imaginaire de ces gamins, quelle perspective aussi ? Donc il fallait que l'on puisse lutter aussi déjà pour dire c'est possible, au-delà de votre appartenance, que ce soit d'un quartier ou bien de votre couleur de peau, il y a une possibilité de pouvoir faire autre chose et de pouvoir persévérer dans ce domaine-là. Alors, j'ai vu que Jamel, Pôle emploi, voulait réagir.
Oui, j'aimerais réagir sur cette problématique. De discrimination ou d'accompagnement ou de rencontre, moi je vais entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. On a parlé des job dating et des forums dans les quartiers. Avant, on avait mis en place le CV anonyme qui a fait son temps. Là aujourd'hui, Pôle emploi met en place des recrutements immersifs. Du sport dating et ce but-là, il y a aussi la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Ces dispositifs-là permettent de faire cette rencontre-là entre l'entreprise et le demandeur d'emploi sans le nom, sans le quartier, mais à partir d'une habilité ou d'un savoir-être. Le recrutement immersif, une enseigne ouvre ses portes à un recrutement. De par le jeu, ils vont faire des exercices, des tâches, des missions qu'un employé fait tous les jours. Et l'employeur est là en observation pour regarder les habiletés, les savoir-être, le travail en équipe, l'assiduité, etc. Le sport dating, souvent on le fait avec des employeurs dits incognito, de par le jeu athlétisme avec la Fédération française d'athlétisme, avec des fédérations de football et pourquoi pas d'autres fédérations ou d'autres clubs sportifs. Jouer en équipe dans un premier temps, déjeuner ensemble dans un second, et après on dévoile qui est le candidat et qui est l'entreprise, qui est le recruteur, et ça casse aussi ces barrières-là. Et enfin, la méthode de recrutement par simulation, c'est une méthode aussi de recruter sans CV, où les candidats vont effectuer des exercices et avec des notes. Et on va proposer ces notes-là, ces candidats-là. Excusez-moi, ce n'est pas des notes qu'on présente, c'est des candidats. On présente ces candidats-là à l'entreprise et il les recevra en entretien sans avoir vu où il habite, quel est son nom, quel est son parcours aussi, parce qu'il aura réussi les exercices. Il aurait eu... les exercices.
Saïd, oui.
Oui, j'ai déjà entendu parler de ces expériences. Est-ce qu'il y a eu des bilans sur, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que, parce que c'est peut-être c'est un peu novateur, mais est-ce que ça marche?
Oui, ça marche. Non, oui, ouais. oui, ça marche. Ça marche parce que ça permet déjà le CV. C'est vrai que quand je suis conseiller relations entreprise, on dépose des offres sur le site du Pôle emploi.fr. Et on est sur des missions, des tâches, un profil de poste où on recherche une qualification, des compétences. Là, on permet la rencontre sans ce frein-là. Donc c'est ouvert à tous, à toute personne motivée. Donc c'est ouvert à tous. Donc juste sur ce fait-là, déjà, c'est un grand pas de découverte et d'accès aux recruteurs.
Nous allons poursuivre toujours avec Jamel, puisqu'il a la parole, il a le micro. Nous allons lui poser la question du RSA. Apparemment, il y a une expérimentation actuellement, c'est le 5e et 7e, qui est la remise au boulot des personnes qui sont au RSA. À l'époque, c'était le RMI. Là, actuellement, on demande à ce que les gens qui disposent du RSA, qui bénéficient plutôt du RSA, puissent être remis au boulot, à la tâche, pour effectuer 15 heures, voire 20 heures dans une association, quel que soit le lieu. Est-ce que cela pourrait être effectif et généralisé? Parce que ça a été à l'origine, c'était le RMI, c'était un peu la même chose que l'on demandait. Est-ce réalisable?
C'est une expérimentation. C'est une expérimentation en lien avec France Travail. Mais pour l'instant, ça reste une expérimentation. Ou un petit peu comme je l'ai présenté pour le jeune, le CEJ, c'est permettre sur le CEJ, pour faire le parallèle, d'avoir une allocation, un revenu en fonction de sa situation. D'être accompagné et dans ces démarches d'accompagnement, prévoir des actions de recherche d'emploi. Dans cette expérimentation, il fonctionne avec le RSA sur pas un emploi au prix du RSA, mais plutôt un dispositif d'accompagnement avec des démarches. Un accompagnement intensif, donc avec des démarches, un programme un petit peu comme le DROP a fait le lien tout à l'heure, avec un accompagnement individuel et des ateliers et des rencontres avec des employeurs et la participation à des forums qui, de par la validation de ces démarches-là, auront le RSA.
Merci pour avoir répondu un peu à cette question, même si nous attendons d'en tirer un bilan, de voir un peu ce qui est effectif, parce que ça peut ne pas être évident. Puis après, c'est la question qui se pose, est-ce que le RSA peut être cumulable avec un poste, un emploi, bon, et autres aussi, bon, que ce soit. Bon, voilà.
J'ai peut-être une remarque sur ça. Si le personnel existait pour faire cet accompagnement, pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant? Pourquoi juste maintenant ça va démarrer? Parce que c'est de dire qu'il faut plus d'accompagnement, pourquoi pas? Mais pourquoi ou alors il faut embaucher des conseillers? Donc on a du mal à comprendre comment ça peut marcher.
Bon, nous verrons à l'issue de cette expérience. Alors, Christelle désirait peut-être réagir aussi.
Je voulais juste dire un mot. Oui. Alors, c'est pas pour contrer qui que ce soit. Mais en fait, il y a beaucoup de bénéficiaires du RSA qui sont ancrés dans le dispositif. Et que ça soit le département ou l'État, réfléchit à comment les sortir de ce dispositif sur du long terme. Parce qu'il y a des personnes qui sont au RSA depuis 10 ans, 15 ans, et pour arriver à remettre en emploi des personnes qui sont dans ce dispositif depuis autant de temps, c'est pour ça qu'il y a cette expérimentation qui a été mise en place. Alors, ce n'est pas que des heures de travail, les 15h-20h, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du travail sur le savoir-être, sur le savoir-faire, parce qu'on a eu une présentation en fait, vraiment détaillée au niveau des GEC pour comprendre justement ce dispositif expérimental. Après, moi qui suis sur le terrain depuis plus de 25 ans, je suis travailleur social depuis plus de 25 ans, je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment des personnes qui étaient dans ce dispositif et qui n'arrivent pas du tout à en sortir. Donc comment les remettre au boulot, comment les remettre à l'emploi, comment les remotiver ou les remobiliser vers l'emploi. Voilà, avoir un parent au RSA pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi rentrer à la maison tous les jours et voir un parent ne pas travailler tous les jours. Donc c'est un peu dommage d'avoir cette image-là et on parlait de transfert sur les générations à venir, mais quoi de mieux que d'avoir son parent qui se lève tous les matins et qui va travailler. Donc c'est vrai que moi je suis ni pour ni contre, mais je trouve que c'est intéressant quand même d'essayer quelque chose pour arriver à sortir et à casser ces habitudes qui sont ancrées au sein de nos quartiers.
Justement, une question aussi. Bon, je m'adresse tant à Jean-Pierre qu'à Virginie. Quelles sont les limites, quels sont les handicaps pour pouvoir mettre aux gens au travail? Parce qu'à un moment donné, il y a la question aussi de la mobilité. Lorsque l'on habite dans nos quartiers, comment s'il y a un boulot dans la restauration, par exemple, puisque ça fait partie des... à l'Estac ou autre, avec des horaires qui sont impossibles, comment pouvons-nous nous déplacer? Parce que ce n'est pas évident de sortir de la Bisserine pour aller à l'Estac, par exemple.
Bien sûr. Alors, nous, quand on va parler des jeunes, déjà, il y a un peu comme les collègues du DROP, tout ça aussi. Nous, on a des suivis individuels aussi, où on voit le jeune, il vient nous voir au centre social, on commence à avoir un suivi avec lui. Et par la suite, alors, pour certains jeunes, ça nous arrive de les accompagner. Parce que justement, ils disent, ouais, mettons, pour aller à l'Estac, ouais, c'est trop loin, il y a 2 heures de route, il y a ci, il y a là. Donc, nous, ce qu'on fait et tout, avec le travail de suivi qu'on fait avec le jeune, on leur montre qu'en fait, en les accompagnant, tout est possible. Quoi.
Oui.
Voilà.
Puis après, pour qu'ils puissent se rendre en totale autonomie.
Et pour le rendre autonome, voilà.
Oui. Mais avec des horaires qui sont impossibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de moyens de transport assez développés qui permettraient, parce que lorsqu'on travaille dans la restauration, par exemple, même pour un adulte qui aurait ça, c'est fini à 22h, 23h en sortant de la stack, comment peut-il faire? Prendre un taxi, prendre un Uber, je ne sais pas. Mais bon, il n'y a pas les moyens. Et il y a ça, ça qui me semble être aussi essentiel, parce qu'ils sont en train de redéfinir un réseau de communication en faisant des doublons, qui, à mon sens, qui n'est pas des plus pertinents. Virginie.
Oui, alors c'est vrai que c'est une question assez compliquée quand même, parce que vraiment la mobilité reste vraiment un problème essentiel dans la recherche de l'emploi. Malgré ce qu'on peut dire, quand même, la gare de Picon dessert la Bisserine, il y a quand même des bus. Là, ils ont mis des vélos de la métropole à disposition. Alors, pour moi, c'est vrai que ça reste pas encore assez, mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un exemple très concret d'une personne qui travaillait le matin, qui devait se lever à 4h du matin. Donc, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Il allait à pied, il mettait 2h30 tous les matins pour aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait marcher notre réseau, on lui a trouvé un vélo qu'on a fait réparer avec la DAP, parce qu'ils ont un atelier de réparation de vélo, et il va travailler avec son vélo. Voilà. C'est pour l'instant la seule solution qu'on ait trouvée. Et en doublant, bien sûr, il s'inscrit au Pôle emploi. On a fait une demande pour passer le permis, avec voir s'il y avait un financement. Mais c'est vrai que c'est long. Passer un permis, ça coûte cher. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on n'a pas de travail, on ne peut pas passer son permis. Et inversement, si on n'a pas le permis, ben forcément, il y a des endroits où on ne peut pas postuler.
Je voudrais entendre un peu les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à dire au niveau de la formation et son drop. Alors, lequel d'entre vous qui peut aussi intervenir? Oui, mais tu peux intervenir aussi. Hein. Tu désignes les deux autres collègues qui sont à côté, mais libre à toi, libre à vous de pouvoir intervenir. Oui. Alors, concernant l'emploi, qu'est-ce que tu fais? Tu as quel âge? Bon, donc voilà. Que tu puisses déjà te présenter et voir un peu qu'est-ce que tu penses aussi tant d'une formation ou bien d'un hypothétique emploi futur ou actuel. Quel est ton projet professionnel, ne serait-ce que ça?
Bonjour, je m'appelle Michael Vassem déjà. Je suis jeune au droit.
Il y aurait peut-être un problème technique, mais allons-y. Est-il ouvert le micro? Oui, vas-y. Michael. Oui, mais c'est cela le direct aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, nous avons bon.
Est-ce que ça marche? Ok, oui. C'est bon. Donc, bonjour, je m'appelle Michael Vassem, je suis au Drop depuis maintenant un an et trois mois. Et ce dispositif m'a beaucoup apporté pour trouver des stages, de formation. Là, en ce moment, je suis sur un service civique grâce aux éducateurs du Drop. Qui m'ont aidé à trouver. Et mon projet professionnel, c'est de travailler, enfin de trouver un emploi en fait le plus rapidement possible.
D'accord. Alors, un autre jeune, alors, allez.
Je suis Théo, j'ai 19 ans et je suis au Drop depuis novembre, fin novembre 2019. Bon. 2022, ouais.
L'émotion, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Oui.
Bon, avec le drop m'a permis de m'orienter vers le numérique, ça, et m'a permis de, pour vraiment valider que si c'est bien ça que je veux, ils m'ont permis de trouver un stage dans la gestion du réseau et la gestion du parc informatique. Et après ça, je suis dans le processus de m'inscrire dans une école qui propose des formations dans le numérique.
Eh bien, oui.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Mamadou, j'ai 15 ans. Moi, depuis que je suis venu au Drop, le Drop, déjà, ils m'ont permis de découvrir les espaces verts. J'ai essayé une fois. Et ça me plaisait beaucoup, mais je pouvais pas continuer parce que c'était vraiment fatigant. Du coup, j'ai essayé la cuisine et la cuisine me plaît. Du coup, au mois de septembre, soit je vais au lycée Corot, soit je vais au lycée Bonneville pour faire un CFA.
Eh bien, je remercie. Vous êtes déjà très courageux d'avoir pris la parole parce que ce n'est pas du tout évident hein, d'apprivoiser le micro. Donc, je vous propose... Ah, oui, tu désires ajouter quelque chose? Oui, tu peux. Vas-y.
C'était juste pour dire que si jamais vous connaissez des jeunes dans votre entourage qui sont en difficulté ou autre, que vous pouvez venir au Drop, il n'y a pas de souci. Franchement, l'accueil est super sympa. Il y a un très bon dispositif qui est mis en place, le suivi également. Franchement, n'hésitez pas.
Oui, donc je vous propose une respiration. Je parle bien de respiration, je ne parle pas de pause musicale avec Sidi. Le morceau que nous allons écouter, je ne me souviens plus puisque je n'ai plus en mémoire, mais Sidi est là, je lui fais confiance. Allez Sidi, merci.
T'as compris très tôt, depuis l'enfance, que tu portes le maillot de la différence. Même quand tu marches droit, on te montre du doigt. Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi. Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire, parce que ton père est né sur l'autre hémisphère. Toi tu ne les connais pas, les rues de Kinshasa. On te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Plein, ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change.
Galère, les échos sur 88.4, nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Alors avec nos invités, c'est une dernière partie, donc c'est quelque chose qui se voudrait beaucoup plus généraliste au niveau des questions, du questionnement que nous avons. Cela concerne la valeur du travail. Est-ce une valeur qui est en voie de disparition? C'est très général. S'il ne disparaît pas, dans quelle direction va-t-il évoluer, surtout avec l'émergence des nouvelles technologies, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, entre autres, hein, parce que ce qui pose beaucoup d'interrogations, cela a interrogé Théo, probablement lui qui sera dans le numérique et autres, probablement c'est le devenir qui est avec nous là aujourd'hui. Peut-on envisager de retrouver un jour le plein emploi ou la pleine activité? Les jeunes et les quartiers populaires, cela se pose. Et enfin, ces jeunes peuvent-ils avoir des rêves de réussite? Parce que ça se pose. Et l'égalité des chances devrait d'abord mise en place dès la maternelle par le biais de l'éducation nationale. Nous revenons à la question qui était posée aussi par Karima tout à l'heure. Donc, si vous voulez réagir, la valeur travail, quelle place occupe-t-elle aujourd'hui? Dans le conscient ou l'inconscient collectif ou pas?
Là, c'est une question philo.
Moi, je vais parler à travers la valeur travail du savoir-être. Aujourd'hui, les employeurs recherchent avant tout, je l'ai dit tout à l'heure, de par les différents dispositifs ou rencontres, un savoir-être, une motivation, une envie. Et du moment où on a l'envie... on peut trouver une qualification, une formation, un emploi en lien. Et Pôle emploi travaille avec plusieurs prestataires. Il y a la valorisation de son image professionnelle et encore avec la psychologue de l'orientation. Ce n'est pas une psychiatre, c'est une psychologue de l'orientation où on travaille justement ces freins-là.
J'ai compris la question de Jean-Marc. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'après la Covid, il y a plein de gens qui ont démissionné parce qu'ils disaient mon emploi n'a plus de sens.
Moi, j'ai appelé ça l'effet bucolique. Parce que, étant dans les espaces verts, j'ai énormément de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils voulaient travailler avec les papillons, les oiseaux et être dans les jardins. Donc, dans les jardins, comme Mamadou l'a précisé tout à l'heure du drop, c'est pas que des papillons et des oiseaux, et c'est des travaux d'espaces verts qui sont assez difficiles. Donc, il faut quand même avoir la motivation. Après, il faut trouver un métier qui nous plaît. C'est vrai que la passion anime les gens. Donc là, il ne faut plus faire un travail alimentaire et trouver quelque chose qui nous intéresse dans ce métier et rencontrer le bon partenaire. Donc dans les quartiers, aujourd'hui, on a le MOV. C'est dans les centres sociaux, donc c'est simple de pousser la porte d'un centre social ou d'une maison pour tous. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le drop qui est ouvert tout le temps, même en été apparemment. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a les éducateurs de rue, donc l'ADAP.
Oui.
Il y a le Pôle emploi. En fait, chaque personne a son interlocuteur. Donc n'hésitez pas, il y a des aides qui existent pour la mobilité, pour les permis, il y a des financements permis, il y a plein de choses qui existent, il faut juste aller pousser une porte, aller dire bonjour et tomber sur le bon interlocuteur. Et si vous ne tombez pas sur le bon interlocuteur du premier coup, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre recherche d'emploi.
Christelle a la parole, donc comment faire pour se mettre en lien avec le GEC Paysage? Parce que vous êtes à proximité aussi de l'EPID. Est-ce que vous travaillez en lien, vous faites avec l'EPID aussi?
On travaille en partenariat avec l'EPID. D'accord. Aussi. Alors, on a énormément de partenaires. Hein. Nous, on est ouvert depuis plus de... Enfin, moi, ça va faire 22 ans, mais le GEC est ouvert depuis presque 24 ans. Du coup, pour nous contacter, je le disais tout à l'heure, il y a le site On démarre demain. Vous tapez sur Google. Vous pouvez postuler en ligne, vous mettre en rapport avec tous les GEC. Après, nous, on est dans le quartier nord, on est dans le parc Lavoisier, on est au cœur du sujet. Donc n'hésitez pas, vous cherchez sur Google n'importe quel GEC, excusez-moi, vous nous trouvez et il y a tous les secteurs qui sont représentés. Au sein de mes locaux, il y a le GEC Provence aussi qui est multisecteur et nous par exemple on finance des permis transport de voyageurs avec la FIMO transport de voyageurs du moment que vous avez le permis B.
Est-ce qu'il y a des coordonnées mail, par exemple, pour être plus rapide, pour ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, comment ça est-il possible de le joindre assez rapidement
Pour le GEC Paysage, c'est GEC, donc G comme Georges, E comme Eric, I comme Isidore, Q comme Quentin, paysage au pluriel avec un S à la fin, @hotmail.com.
Merci beaucoup Christelle, nous allons poursuivre avec Virginie. Virginie, alors...
Oui, alors par rapport à la valeur travail, oui, juste pour rebondir juste deux secondes, c'est vrai que ce que disait Christelle, maintenant les personnes aimeraient quand même faire un travail quand même qui leur plaise. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, alors il y a beaucoup en décrochage scolaire, mais il y a aussi la génération des influenceurs, des youtubeurs, oui. Ils veulent en faire un métier. Alors pour certains, ça marche, sérieusement. Ils vont voir des personnes qui s'occupent d'eux. Bon, on va dire que c'est un autre moyen de travailler. Et souvent, ils n'ont pas envie aussi de faire comme leurs parents, entre guillemets. Hein. Il n'y a rien de péjoratif. Mais quand ils voient que leur maman a été femme de ménage toute leur vie et qu'elle a 600 euros par mois pour sa retraite, ils ont envie de faire autre chose. Et on les comprend.
Oui, le corps fatigué.
Le corps fatigué, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont des parents qui travaillent, mais qui les voient épuisés en rentrant. Donc, ils veulent faire plus, avoir des diplômes ou avoir des qualifications qui correspondent en tout cas à une valeur travail qui leur corresponde. Et ça, pour eux, c'est très important.
Et est-ce qu'au niveau qualification égale, peut-on considérer que lorsqu'on est issu des quartiers nord, on peut trouver aussi facilement que d'autres quartiers et d'autres appartenances communautaires ou ethniques?
Alors, je dirais qu'avant le Covid, j'étais plutôt sur des essais de CV avec des transformations de prénoms et de noms pour faire des tests. Et c'est vrai que selon le quartier, le nom, y avait des fois des réponses positives en changeant, on va dire en francisant le nom. Hein, ouais. C'est pas cool de dire ça, mais c'est la réalité. Et on va dire que depuis deux ans, je trouve que c'est quand même beaucoup plus ouvert. Peut-être aussi par rapport aux entreprises qui voient que y a de la main-d'œuvre dans les quartiers, il y a de la main-d'œuvre partout. Et c'est pas parce qu'on est, comme tu disais tout à l'heure, à rabout noir dans ta génération, qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie de travailler, bien au contraire. Souvent, les jeunes et les personnes issues des quartiers, dont là, ça fait quand même 10 ans que je suis à la Busserine et j'en ai fait d'autres, sont très, très, très motivés. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, justement, ils ont envie de montrer qu'ils sont capables deux fois plus que les autres. Donc souvent, les entreprises qui vont même les prendre ne serait-ce qu'en stage, en immersion ou autre, ils vont voir que ils sont encore plus motivés parce que, comme tu le disais, la mobilité, c'est compliqué. Ils vont quand même se lever très tôt, faire tout pour aller au travail, faire tout pour aller au stage. Et ils vont montrer qu'ils ont encore plus envie. Et je trouve que ça a un peu changé quand même.
Merci beaucoup, Virginie, pour cet appel aussi aux entreprises de recruter aussi dans nos quartiers. Alors, pour ce faire, des coordonnées, un contact avec le MOV, comment faire?
Alors le MOV, donc MOV, c'est M-O-V-O, c'est un peu comme le MOVE en anglais, c'est MOVO.CS comme centre social agora tout attaché, @gmail.com pour me contacter. Il faut savoir que je suis disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h, avec ou sans rendez-vous. Voilà.
Merci. Poursuivons avec Jean-Pierre. Alors le travail, la valeur travail, ce n'est pas un piège, hein, c'est pour terminer.
Oui, Non, moi je dirais aussi que c'est l'envie. L'envie aussi, l'envie du jeune ou de la personne. Moi, je le vois par rapport aux Flamands. Par rapport à ce qu'on propose aux habitants, par rapport à l'emploi, c'est vrai qu'il ressort souvent le bâtiment. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des trucs, c'est le bâtiment qui ressort. Et malheureusement, pour les femmes, c'est le ménage.
Eh oui.
Voilà. Et c'est vrai qu'après, je comprends les jeunes aussi. Alors, quand ils sont vraiment motivés, ils ne veulent pas faire ça. Après, c'est difficile aussi de les remotiver. Parce qu'après, quand ils viennent vous voir, ils vous disent « Ouais, mais moi, je ne vais pas faire le maçon, ou je ne vais pas faire le manœuvre, ou si c'est une fille, faire le ménage, frotter le sol par terre, tout ça. » Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est quand même à l'envie. Et après, il faut travailler avec eux aussi, un peu le savoir-faire et le savoir-être.
Voilà. Eh bien, merci, mais nous allons poursuivre avec Lisa avant de laisser la parole aussi à Lucas. Lisa,
c'est ça. Sur la valeur travail, du coup, nous, on le remarque quand même avec les jeunes qu'on accompagne au quotidien. C'est vrai que par leur parcours scolaire, déjà, ça a pu être parfois un peu compliqué pour eux. Le format aussi de l'école actuelle ne convient pas forcément à tous.
Donc on remarque souvent dans leur parcours et dans les jeunes qu'on accueille que ça décroche à partir de la 5e, 4e, pour ensuite ne plus y aller. Et c'est vrai que nous, notre travail est aussi de pouvoir un peu leur redonner cette envie et du goût au travail et leur dire que c'est possible, qu'il y a d'autres façons de faire que ce qui est proposé actuellement et qu'ils en sont capables. Et la preuve, par les différents témoignages qu'il y a eu, qui ont eu des fois, une période de stage ou une rencontre permet aussi de se dire, c'est ça que je veux faire et que je vais m'en donner les moyens.
D'ailleurs, sur le dispositif, c'est vrai que j'ai omis de préciser tout à l'heure, mais par rapport, il y a des ateliers professionnels du coup qui sont mis en place sur la structure, mais à côté de ça, dans la semaine, il y a aussi d'autres ateliers qui sont proposés par des animateurs ou par les référents éducatifs. On va avoir des ateliers type d'expression, des ateliers sportifs, des ateliers de jeux coopératifs, des ateliers d'art plastique. On a aussi une enseignante qui est là et qui propose une remobilisation scolaire pour ceux qui ont eu des lacunes ou qui ont besoin de retravailler certaines choses avant de rentrer en apprentissage. Il va y avoir toute une remobilisation scolaire qui va être faite où c'est pas du tout, on n'est pas dans une classe vraiment comme à l'école, c'est en petit groupe, le jeune travaille ce qu'il a envie de travailler. Pareil, elle fait également du soutien pour l'apprentissage de la langue française pour les mineurs non accompagnés qu'on accompagne. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez envoyer soit appeler directement l'association, le service drop de l'association JB Fouc. Le numéro, c'est le 04 91 75 87 40. Voilà, donc vous pouvez appeler directement le siège social ou vous pouvez envoyer un message. Je vais donner mon adresse mail directement, lucas.ceciron, donc lucas.ceciron, CE2SIRON, @jbfouc.org.
Voilà. Merci beaucoup. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. C'est avec Jamel Guermoudi. Jamel, de toute façon, nous serons amenés à nous revoir peut-être parce que nous devons aborder différents points aussi, que ce soit sur les métiers en tension, qu'est-ce que l'on entend, sur quelle ouverture, ça fait partie de tout, mais ce sera l'occasion de notre émission à laquelle nous vous convierons, en même temps que nous allons convier aussi la mission locale du 13e, 14e, parce que là, voilà comment. Alors, Jamel, alors. Moi, pour le Pôle emploi, alors, la valeur travail, c'est au Panthéon.
Moi, je ne vais pas donner mon adresse email, mais je vais donner un site internet, mesévénementsemploi.fr. Tous les jours, à Pôle emploi, il y a un événement, une rencontre, on en a parlé, des ateliers, et soit avec votre accompagnateur, soit le candidat en étant inscrit ou sans être inscrit, ce n'est pas forcément être inscrit à Pôle emploi pour y accéder, il est ouvert. Je répète, mesévénementsemploi.fr, vous avez des ateliers, des recrutements, des job dating, des forums, les ateliers détection de potentiel, les MRS, etc., etc.
Donc le Pôle emploi est ouvert aussi pour les jeunes au-delà de la mission locale, mais les jeunes peuvent aussi s'adresser à la mission au Pôle emploi.
Au Pôle emploi.
Voilà, oui. D'accord.
Et ouvert du lundi au vendredi et même pendant les vacances.
Oui, Virginie, merci beaucoup Jamel.
Merci Jamel. Je voulais juste rajouter, j'ai complètement oublié, en fait on fait des permanences emploi le mardi matin au Centre Social Agora et la mission locale. Et nécessité, donc c'est ouvert aux 17-64 ans. Je vous remercie.
Et au centre social, il y a des permanences aussi, alors ?
Alors pareil, nous, dans le cadre de la plateforme à l'emploi, on a avec les partenaires qui tiennent des permanences sur le centre social, donc on avait Pôle emploi, mais on ne fait plus de permanences Pôle emploi, mais on travaille sur d'autres actions. Et on a mission locale le mercredi après-midi, le CIRES toute la journée le jeudi, plus des permanences CAF. ça peut aider aussi les personnes. Et tous les jeudis après-midi, nous avons les jeudis de l'actu, où pareil un peu, c'est comme les jeudis de l'emploi, où il y a des partenaires, et on accueille le public sur des infocaux et sur des rédactions des CV, là, de motivation.
Voilà. Merci beaucoup. Nous allons libérer nos invités. Oui ? Pardon, oui ? Voilà, mais c'est bien. Mais au moins, la relève est assurée. Hein. Oui.
Juste, si vous avez un projet professionnel et que vous rejoignez le drop peut vous aider à trouver ce projet professionnel, trouver des stages, même si ça n'a rien à voir avec la cuisine, l'espace vert ou bâtiment. Moi, par exemple, mon projet professionnel, c'est doubleur de voix, donc c'est complètement différent. Doubleur de voix, donc doubler des films, des séries, tout ça. Et le drop peut vous amener à trouver des stages, par exemple dans le milieu du théâtre, ce genre de choses. Vraiment. Donc si vous avez un projet professionnel, franchement, n'hésitez pas à rejoindre le drop ou à consulter les éducateurs, vraiment. Ils peuvent vous aider. Merci.
Merci, merci, merci beaucoup. Alors, nous vous remercions d'être venus, de vous être mobilisés pour nous consacrer un peu de temps dans le cadre des échos. Alors, pour nous quitter sur une petite note positive, alors, grand corps malade, ça peut schémar. Bon, ça, ce sont les jeunes, qu'est-ce que vous voulez. Donc, après, nous reprendrons avec, comment dirais-je, avec les communiqués afin de terminer cette émission. Merci beaucoup et au plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous.
Merci à vous. Message. Aujourd'hui à 15h25.
Allô, Fab ? Ouais, c'est Samy. Eh hey, frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi, obligé, ça peut schémar.
Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours ? Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions tu te foutais d'elles. Mais hélas pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes, aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski, il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de mon devenir, j'ai frôlé la crucifixion. Mais j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule des acharnés, à tout moment ça peut schémar.
Des projets noués nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles. Étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. Lorsque cette phrase résonnait, je te jure ça peut schémar.
Ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale. À toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial. Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué et que les experts ont bien mieux à faire que de le réparer? Sur ma lancée je devais poursuivre, alors j'ai pris les escaliers. Mais à ma grande surprise, il n'y avait plus de marche après le premier palier. On a donc dû relever les manches, t'as fait dur même les dimanches, quitte à se faire bébard. Et dans nos têtes, on se répétait en boucle, t'inquiète, un jour ça va schémar.
Je me souviens même plus vraiment quel était notre but final. Voir le quotidien différemment, tenter un truc original. Évidemment, ne soyons pas naïfs, on voulait aussi faire des sous. Mais si c'était le seul objectif, on aurait souvent été déçus. Finalement, notre ambition, c'était de se créer des rêves. S'offrir une vraie récréation, que le réel nous offre une trêve. Et puis surtout être fier de construire avec ses potes. On avait besoin de ça, grandir pour changer d'époque. Combien d'heures accumulées, en bas de chez toi dans la voiture, à refaire le monde et à dessiner notre futur. Combien d'idées d'excités on a citées au pied de ta cité. Et si t'es comme moi, tu referais la même sans hésiter.
À tous les gosses meurtris de briller dans l'indifférence d'une société qui les néglige puis les accuse de nonchalance. Un hymne amère patrie qui brise le talent et passe son cri sous silence. Une clameur se fait entendre et bat la mesure en cadence. France, des fois je te hais. Parfois tu m'émeus, mais souvent je me tais car je sais qu'au fond je t'aime. Mais il serait temps que tu rendes hommage à tous ces talents détruits. Fais donc ton tri au mérite et il y aura beaucoup moins d'aigris. Beaucoup moins de jeunes épris du lointain modèle états-unien. Parce que réussir ailleurs reste encore le seul moyen d'obtenir ton soutien. Si beaucoup se barrent, c'est pour chasser des chimères autre part que dans leurs cauchemars. Rappelle-les sur tes terres et montre-leur qu'ici aussi, pour eux, ça peut chémar.
Alors on a monté des projets loin des projecteurs, pour éviter les projectiles des rageurs jeteurs de sorts. Est-ce la mentalité de banlieue ou la mentalité française? Mais les meilleures idées sont souvent celles qui se taisent. Doit-on vraiment changer d'envie ou changer d'environnement pour se fixer des objectifs et les atteindre ouvertement? Des mecs qui jettent le mauvais œil, on en connaît depuis le préau. Je dois avouer que même entre nous, on sait pas toujours tirer vers le haut. Mais fini de s'imposer notre propre censure, on n'a pas de censure les mains. Alors pourquoi ne pas être sûr qu'on est sur le bon chemin? Nous n'étions pas forts, mais ce passé nous a formés. Et plus jamais je me marre quand j'entends cette phrase résonner. Je te jure, ça peut chémar.
Merci, merci donc à tous nos invités. Merci à Sidi d'avoir assuré un peu la technique comme d'habitude. La dernière partie avec les communiqués. Donc je vous informe que la mission locale de Marseille, antenne 13-14, a déménagé depuis le 24 avril. Donc l'adresse suivante dorénavant pour la mission locale, c'est mission locale de Marseille, antenne 13-14, immeuble l'Odyssée, 51-53, boulevard du Capitaine Gaze, dans le 14e à Marseille. Un numéro de téléphone 04 91 81 05 10. Autre communiqué, Madame Lila Sommé, directrice du centre EPIDE de Marseille, a le plaisir de vous convier à une journée porte ouverte à destination des jeunes et de leur entourage le jeudi 8 juin 2023 à partir de 9h aux deux traverses de l'Oasis dans le 15e, Les Égalades. Donc c'est placé sous la tutelle des ministères du Travail et de la Cohésion des Territoires. Autre dernière information pour communiquer, l'association Les Muses Urbaines que nous recevrons lors d'une prochaine émission et ses partenaires, dont le comité et association avec nous, l'ADAP 13, Centre Social Agora, la PECB, la FOU, Amicale des Locataires Bessérines, vous invite à leur initiative s'intitulant « Ensemble, écrivons l'histoire de nos quartiers, de la mémoire à l'histoire ». Cela se déroule ce samedi 27 mai au City Stade de la Bessérine de 10h à 19h au programme dès 10h, atelier numérique et visite d'exposition autour de la mémoire du Grand Saint-Barthélemy. Donc et à 10h30, tournoi de foot, 8-12 ans, 12h barbecue, 14h tournoi de contrée, tournoi de pétanque féminin, 16h scène urbaine et à 19h, il y a des animations. Autre information, c'est hors les murs. Bon, et vous savez que le festival précision, le festival Où les beaux jours, s'est redémarré depuis le 24 et s'achève au 29 mai. Malheureusement, il devait y avoir une intervention demain soir à 19h au MUSEM. Le portrait de Leila Chahid, Fahad Saïd, vient juste de m'informer que cela a été annulé. Donc, nous remercions la politique de la ville et Taïb Métropole qui soutiennent notre action. Et bien sûr, nous remercions Radio Galère 88.4. Merci, merci, et passez une bonne soirée, une bonne journée. Et bien sûr, vous pourrez nous suivre, soit sur le site de Mamega, vivreensemble.org, pour la rediffusion, ainsi que pour la rediffusion, quel jour ? Samedi, à partir de quelle heure ? 14h05, pour la rediffusion des émissions. Merci, merci. Allez, bonne journée, bonne semaine pour vous aussi.